Très belle, Hélène. Bon début de journée.
Bonjour.
Bonjour, Steve.
Il fallait.
Bonjour du drapeau.
Bonjour du drapeau.
Aujourd'hui.
Je savais pas.
Ben oui, 21 janvier 1948, la première fois qu'on a hissé le drapeau.
Merci d'être cette mémoire pour nous, Isabelle.
Ça me fait plaisir. Je sais qu'on est pris dans la tempête, là, mais rappelons-nous.
C'est
chose importante. C'est ça. Moi, je m'en souviens en 1948.
Évidemment.
Pourquoi tu me regardes?
Et une chose
impertinente.
Ah oui, ça commence bien ce matin. Et une chose dont on devra se souvenir assurément, c'est de ce dépôt d'offres, d'appel d'offres, dans le cas du Well Sud. Il y a de ça presque un an, jour pour jour, on se déchirait le Well Inc. Et là, on se disait, on recommence. On se relance dans un processus d'appel d'offres. Bien, on se relance. Il n'y en avait pas eu la première fois. Mais finalement, il y avait des gens dans l'enveloppe. C'est ce qui fait le bonheur de tout le monde parce qu'il n'y avait pas juste une entreprise, il n'y avait pas deux. Il y a trois propositions.
Incroyable quand même parce que, tu sais, le pari était risqué pour le maire Lucier. Le retrait du promoteur il y a un an, comme tu le dis, avait provoqué une onde de choc chez les partenaires, chez les commerçants, chez tous ceux qui ont à cœur le centre-ville. Et on a douté tout le long de l'année. Même dans les dernières semaines de 2000.
On repousse le dépôt d'appel d'offres.
On repousse la date d'ouverture des projets. On était persuadés, je pense, on était nombreux à croire qu'il n'y aurait rien, qu'il n'y aurait pas de projet déposé. Et finalement, à trois projets, le maire Lucier gagne son pari au terme d'une semaine qui a été quand même époustouflante pour lui. Là, je pense que la fin de 2018 l'aura secoué. Il a décidé de repartir 2019 en grande, mais bon, tout n'est pas fait. Il reste encore plusieurs étapes avant d'arriver à un projet ficelé, mais quand même, c'est rassurant. Des projets avec des promoteurs, à la fois des gens de Sherbrooke, mais des gens de l'extérieur qui s'intéressent à notre centre-ville. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire là, sur ce qui s'est passé vendredi.
Ben, je pense que c'était l'endroit où il fallait se retrouver. Tu sais, on a tellement entendu parler l'année dernière et je pense qu'à travers tout le Québec, les gens savaient qu'on attendait quelque chose. Je pense également que c'était d'emblée reconnu que c'est un coin qui méritait d'être développé. Puis aussi, c'est un coin on peut en prendre le pari qui va avoir un achalandage intéressant. Alors, évidemment, le conseil de ville puis le maire Lucier doivent être soulagés, comme le disait Isabelle. Mais moi, ce que j'aimerais connaître, c'est la grille d'évaluation des projets. Puis ça va nous donner un indicateur de ce que la ville veut. Tu sais, on entend parler beaucoup.
Au moins, il y aura des rencontres. Ça, c'est déjà ça. On va les rencontrer, les trois.
Tout à fait. On sait qu'on veut avoir des logements. Puis il y en a un, d'ailleurs, là, un des trois projets un des partenaires a dit qu'il allait amener ses 200 employés dans le centre-ville. En tout cas, que ce soit eux ou les deux autres qui gagnent, effectivement, ça prend des gens pour vivre. Il faut l'habiter, ce quartier-là, ce coin de la ville-là. On parle beaucoup de mobilité, on parle beaucoup de développement durable, donc de vert. Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce qu'il y aura, par exemple, et je me permets d'en rêver, un petit peu comme à l'instar des grandes villes du Québec, des tours qui seront réservées au tourisme via des sites d'Airbnb, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y aura là-dedans au niveau culturel aussi?
Il y avait une place publique
tout à fait.
Dans le dernier projet.
Absolument.
Mmh. On parlait dans l'appel d'offres d'un quartier. Bon, on a gardé l'aspect entrepreneuriat, innovation. Donc, il y aura encore une maison de l'entrepreneuriat dans cet immeuble-là. Après ça, on appelle à des retombées économiques, mais aussi des retombées sociales, des entreprises innovantes, puis une intégration des infrastructures municipales, le stationnement municipal dont on a tant parlé pendant la campagne électorale, et la place publique. Après ça, j'imagine que les promoteurs auront innové dans l'offre qu'ils ont. Moi, ce qui me préoccupe, tu l'as dit, qu'on n'ait pas le contenu. La prochaine étape du processus, c'est d'abord de la conformité des propositions. Ensuite de ça, il y a un comité de sélection dont on ne connaît pas l'identité qui va rencontrer chacun des promoteurs qui auront l'occasion de faire un pitch, en bon français, de leur projet. Et ce comité-là ne contient pas d'élus non plus. Donc, à un certain point, il va falloir que la vision de notre comité de revitalisation du centre-ville, qui n'est composé que d'élus, soit en concordance avec le projet que le comité de sélection va choisir. Mm-hmm. Puis moi, j'ai un peu de mal à voir comment ça va arriver.
Je pense que les gens vont se parler avant. Ils n'ont pas le choix, hein?
En principe, ma compréhension, c'est que le comité de sélection est complètement étanche et que les élus ne savent même pas eux-mêmes qui est sur le comité de sélection. Donc là, je le sais pas. T'sais, comment est-ce que cette concordance va se faire? Est-ce que la vision du comité de revitalisation du centre-ville est suffisamment claire pour que les gens du comité de sélection puissent choisir en toute connaissance de cause? Parce qu'à terme, il n'y aura qu'un seul projet présenté au conseil municipal.
Et on prévoit de la construction pour 2021, donc d'ici un an, on va déjà commencer à se dire si ça a été une bonne idée ou non de repousser ça un petit peu plus loin.
Tout à fait.
Quoi qu'il en soit, pari audacieux, je suis d'accord. Et ajouter à ça, il y a des gens qui sont chanceux dans la vie. Puis là, je ne veux pas dire qu'ils ont été chanceux, mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe sur la Well Sud? Un nouveau dynamisme. Il y a quelques commerces qui ont poussé, puis ça semble vouloir reprendre vie.
Ouais.
Ah, évidemment, c'est possiblement lancé par la volonté aussi, là, la volonté de vouloir refaire. Mais tu sais, disons
mais
que le timing...
l'opportunité aussi, oui. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer là.
Donc, peut-être que ça va prendre de la valeur,
ben,
ton
voyons,
commerce.
Ben ça, c'est clair comme de l'eau proche. Alors, les gens d'affaires sont très conscients de,
oui,
de quelque chose comme ça.
Autre dossier, le syndicat des cols bleus et des chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke s'allie pour demander la création d'un comité de sous-traitance à la ville de Sherbrooke. La question qu'on se pose, c'est on se dit, on en voit pousser de plus en plus. On ne tient pas nécessairement au courant. Et on aimerait que ce soit un peu obligatoire, c'est-à-dire qu'on tienne au courant le syndicat de la sous-traitance qui se fait en lien évidemment avec l'École bleue à Sherbrooke.
Ben, moi, je trouve que c'est une excellente idée, une excellente initiative de la part des syndicats, dans le sens que j'aimerais aussi que ça s'élargisse au-delà de la STS, par exemple, et que ça se fasse dans tous les départements de la ville. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le comité devra évaluer si la tâche prévue doit être faite par des sous-traitants ou par l'École bleue en fonction de caractéristiques bien définies, c'est-à-dire le coût, l'efficacité et la capacité de relever le défi, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, on parle d'autobus, est-ce que le sous-traitant est déjà équipé? Mais ça fait partie, évidemment, c'est relatif au coût. Alors, je pense que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où tant les villes que l'entreprise privée sont à la recherche de main-d'œuvre de qualité, est-ce que ce n'est pas le temps de prendre du recul puis d'analyser justement qu'est-ce qui est plus efficace, la sous-traitance ou l'employé syndiqué? Qu'est-ce qu'il coûte le moins cher également, le syndicat ou la sous-traitance?
À l'interne.
Et pour moi, ça fait du sens maintenant.
Et est-ce qu'on est capable de faire une structure aussi où il y aura un peu moins d'émotion?
Oui. Ben absolument. Mais tu sais, on l'avait fait avec la collecte des matières résiduelles sous Bernard Sévigny. On a passé, on a raté le train ou raté le bateau cet automne sur la collecte des matières résiduelles comme telle. T'sais, les syndicats sont arrivés un peu à la dernière minute en disant « mais vous allez en sous-traitance, mais peut-être que nous, on pourrait le faire de façon plus efficace ». Fait que dans une instance, on rentre ces discussions-là systématique entre est-ce que la machine publique ou privée est plus efficace. Moi, je pense qu'à plusieurs égards, on va se rendre compte que de maintenir ça... au public, là, à l'intérieur de la ville, ça va être intéressant. Effectivement, on cherche l'efficacité. Effectivement, il y a l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre qui touche autant le secteur public que privé. Fait que c'est intéressant aussi de retrouver dans un comité, au sein de ce comité-là, des discussions sur c'est quoi les meilleures pratiques qu'on a du côté des cols bleus pour améliorer l'efficacité de la machine.
Parce que les choses ont changé depuis les 20 dernières années. Il ne faut pas se le cacher, puis il faut être ouvert à la différence. C'est pour ça que je disais, est-ce que les sous-traitants, le privé, doit avoir plus de place au sein du public? Peut-être.
Mais seulement si c'est vraiment efficace.
Et peut-être dans certains secteurs aussi. Ça, c'est l'autre affaire.
Tout à fait, absolument.
T'sais, parce qu'on parlait l'autre fois du ramassage de déchets. On s'était rendu compte qu'en faisant affaire avec nos employés, on était capable de sauver des sous. Puis là, on a manqué notre coup sur le dernier bac, mais bon. C'est dans ce secteur-là, visiblement, on a à la fois pour le payeur, à la fois pour le syndicat, je pense qu'on aurait été gagnant.
Je pense qu'il faut avoir un comité neutre.
C'est ça.
Et avec des balises très claires qui vont être en mesure d'évaluer ce que je disais tout à l'heure, le coût, l'efficacité, puis d'autres
puis
points
autant,
qui sont
autant que possible des travaux du comité qui seront faits publiquement ou en tout cas rendus publics. Puis l'autre chose qui est importante, c'est de garder l'expertise interne. Hey, on a traversé au Québec la commission Charbonneau qui nous a rappelé à quel point d'envoyer tout au privé faisait en sorte que les gens à l'intérieur des organisations publiques avaient peu de capacité à évaluer la qualité du travail, puis que ça pouvait mener à des malversations, de la collusion, de la corruption.
Gardez
donc,
ça aussi en tête.
Garder une perspective interne, une capacité d'évaluer, puis une expertise à l'intérieur des municipalités, c'est tout aussi important. Puis ça, je pense que ça permet aussi de le faire.
C'est pas fou sur le déneigement. Pensez-y entre autres sur le déneigement.
Tout à fait,
comment tu vas faire pour évaluer que quelqu'un... Tu sais, nous, comme citoyens, là, je parlais à Mme Boutin il y a quelques minutes, là. Ben, ils ont fait leur travail. Ça me semble efficace, mais est-ce que c'est exceptionnel? C'est-tu bon, moyen? J'en ai aucune idée.
Mais il faut avoir l'ouverture d'apprendre des deux côtés. T'sais, de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait au public et de s'inspirer de ce qui se fait au privé.
Enlever le
snobisme. Pour offrir. Ben oui. Ben, puis tu sais, c'est cette espèce de clivage qui existe depuis des années. Les syndiqués, les non-syndiqués, le privé, le public. L'important, c'est de donner le meilleur service au public, justement, à la population.
Et il se fait du bon, de l'excellent des deux côtés.
Absolument.
Merci d'avoir été là ce matin, mesdames.
Merci.
On se retrouve demain.